Dis-moi en terrasse.
Mais tu m'étonnes avec le temps qu'il fait.
Vous voulez boire un verre?
Volontiers.
Oh Adrien, tu me sers deux pastis.
C'est très chaud, non?
Pierre transpire de partout.
Tu gourdes, oui.
Et alors, vous voulez pas prendre le pastis?
L'apéro, le rendez-vous estival de Radio Campus Paris.
Je pense qu'on peut démarrer là.
Le sachiez-tu? Quelque part sur une petite île du Panama, des capucins à tête blanche sont entrés dans l'âge de pierre. Ouais, des petits singes tout mignons ont été observés en train d'utiliser des cailloux pour défoncer noix de coco et graines afin de se nourrir. Après les chimpanzés, les capucins touffus et les macaques à longue queue, c'est la quatrième espèce de primate à rejoindre l'âge de pierre, et sûrement pas la dernière apparemment. En parlant d'outils, le sachiez-tu, les piafs savent même en construire, et de mémoire s'il vous plaît. Des corbeaux calédoniens sont capables de façonner leurs propres outils, toujours pour manger. Les scientifiques les ont mis face à un distributeur automatique dans lequel il fallait glisser un bout de papier d'une taille précise pour voir arriver la mangeaille. Après leur avoir donné différents bouts de papier de différentes tailles, les chercheurs leur ont donné une seule grande feuille, et les corbeaux ont tranquillement découpé dedans le carré de la bonne taille pour actionner la machine. Le sachiez-tu enfin, les abeilles comprennent le concept de zéro, l'entité du rien. En les soumettant à une sorte de QCM visuel où choisir l'image avec le moins d'objets était récompensé par de la nourriture, toujours, les chercheurs ont vu les insectes capables de se représenter le zéro en choisissant au final une image vide. Et donc de prouver qu'elles avaient compris que zéro, c'est plus petit que 1. Je ne saurais pas vous dire pourquoi, mais mathématiquement, il paraît que c'est bluffant. La nature est fascinante. Pourquoi je vous dis tout ça? Parce qu'entre-temps, nous, êtres humains, qu'est-ce qu'on a fait? Pendant que les capucins concassent des graines et que les corbeaux découpent des feuilles de papier, l'homme avec un grand H détruit consciencieusement son espace de vie et celui de milliers d'autres espèces. Pendant que les abeilles s'acharnent à apprendre les maths, l'être humain la décime, remplit ses océans de plastique, son air de particules fines, ses forêts de béton et de buildings. Il va falloir se presser les mecs, sinon le peu qui restera de nous cassera bientôt des graines avec des cailloux et on sera peut-être même plus compté jusqu'à zéro. À ce rythme-là, on va finir en bas de la chaîne alimentaire. Bougez-vous le cul.
Pas une bière.
On vient de passer un mois à picoler, on a fait que ça.
Et on va continuer.
Et on va continuer.
L'apéro jusqu'à 20h sur le 93.9.
Bonjour auditrice, salut auditeur, es-tu bien installé? On l'espère parce que t'as vu l'heure? Attrape un verre, remplis-le de ce qui te fait plaisir et tends l'oreille. On est ensemble pour une heure sur les ondes associatives avec Simon. Salut Simon.
Oui, c'est moi. Bonsoir Charlotte.
De quoi on parle exactement ce soir, Simon? J'ai pas trop suivi.
Alors, on parle de petits et de grands écrans. Et oui, dans l'apéro, ce soir, on reçoit Jean-François Alain et Jean-Édouard Bodziak, respectivement créateurs, co-auteurs et acteurs de la série Au service de la France, dont la saison 2 vient de démarrer à raison de 3 épisodes par semaine, tous les jeudis, sur Arte jusqu'au 26 juillet.
C'est magnifique. Et pour rester dans le thème, en deuxième partie, on reçoit les fondateurs de Revue Éco- Corrigé, un trimestriel consacré uniquement au cinéma de patrimoine, dont on a le premier numéro tout beau tout chaud avec nous en studio. En milieu d'émission, on bigophonera aussi Philippine, notre envoyée spéciale en direct live du Festival d'Avignon, qui se balade pour nous, entre autres, dans les salles du in et du off.
Et puis restez avec nous jusqu'à la fin, car il ne faudrait pas rater le tout dernier épisode de notre fiction estivale, Wonderful Pacific Blue Exquisite Queen, de notre cher Maxime.
Bon bah c'est un beau programme tout ça, c'est parti?
Bah c'est parti, oui. Et il n'y a pas de son d'intro, c'est normal.
On devait
passer un extrait d'Au service de la France de la saison 1.
Que tu vas nous imiter tout de suite.
Tamponné, double tamponné. Il y a un comédien exactement de la scène. Donc Au service de la France, la saison 1 a été diffusée fin 2015 et la diffusion de la saison 2 a commencé jeudi dernier et sera diffusée donc jusqu'au 26 juillet. Bonsoir Jean-François Alain.
Bonjour.
Vous êtes vous êtes créateur et co-auteur de la série Au service de la France.
Oui.
Merci d'être avec nous.
Et merci de nous recevoir.
Et en face de vous se trouve un des interprètes des agents nickelés.
Oui.
C'est le terme qu'on emploie pour les personnages de la série.
J'ai lu ça beaucoup, un des pieds nickelés, oui. C'est Callot. Callot, c'est le spécialiste des pays de l'Est, le paranoïaque qui voit double tout le temps.
Jean-Édouard Bodziak, bonsoir.
Bonsoir.
Bienvenue à vous deux. Alors j'étais à une projection le mardi 19 juin, il y a eu une projection co-organisée par Sens Critique des trois premiers épisodes de la saison.
Mais c'est pour ça que
2.
Je vous reconnais.
Je vous ai posé une question
Elle
ne figure
vrai.
Pas dans ce questionnaire malheureusement.
Voilà.
Et lors de la discussion qui a suivi cette projection, il est ressorti que contrairement à OSS 117 que vous avez, dont vous étiez le scénariste Jean-François Alain, qui montre un abruti dans un monde sérieux, Au service de la France montrait un homme sérieux dans un monde d'abrutis. Est-ce que ça définit bien la série pour vous?
Alors je crois bien que c'est même un des deux. Nous sommes trois auteurs. Il y a Claire Le Maréchal et Jean-André Herlès. Je crois que c'est Jean-André qui a dit ça sur à une des questions.
Il me semble.
Voilà. Je donc ça me paraît sûr. Très brillant. C'est peut-être pour ça que ça me paraît très très brillant. Oui, je trouve que c'est une très bonne définition. Effectivement, le monde au service de la France, c'est quand même. Il y a André Merlot, joué par Hugo Becker, qui est à peu près normal, héroïque, a une vraie notion d'agent secret.
Dans la première saison, il découvre un petit peu les ficelles du métier, si on peut dire.
Il est déçu et il se venge en saison 2. Et ce monde est totalement absurde. Dans OSS, c'est plutôt l'inverse. C'est vrai que lui est quand même très débile dans un monde qui est à peu près normal.
Qui est à peu près normal,
oui, ça me paraît pas mal.
Et ce qui vous intéressait quand vous avez créé au service de la France, c'était le côté administratif des services secrets, si je ne me trompe pas.
Oui. Et c'était assez amusant parce que hier soir, j'ai eu une discussion avec quelqu'un qui connaît très bien un agent de la DGSE et qui me disait qu'ils étaient vraiment très fans à la fois du tamponné, double tamponné que vous aviez fait là, et des notes de frais. C'est-à-dire que, quelle que soit la mission que vous faites...
Les notes de frais sont très présentes dans la série, tout à fait.
Et en vrai, dans les services secrets, les notes de frais, c'est un problème. Surtout quand vous partez dans des pays dans lesquels, comme on l'avait dit en saison 1, il n'y a pas forcément de justificatif. Voilà.
Donc c'est-à-dire que c'est une matière qui existait finalement déjà dans les services secrets, vous en avez fait des running gags.
Ah mais
vous
ne le savez pas.
Tout ce que... Ah vous ne saviez pas
Pas du tout, non, nous ça nous amusait d'imaginer...
On a retrouvé le son.
Voilà, Marie-Jo.
Est-ce qu'on peut pas l'écouter pas maintenant ouais,
allez, allons-y, le son d'intro après.
Tamponné, double tamponné.
Mon dieu Merlot, vous allez arrêter avec votre stylo, vous crispez tout le monde.
Et
allons-y. Depuis ce matin, vous nous pétez les rouleaux avec vos questions d'igo de... Et à quoi ça sert? Et pourquoi on fait ça? Et alors, mais comment on va savoir faire, Merlot?
J'ai juste signé,
En plus, c'est un stylo réglementaire perçu au DSLTO.
Vous aussi, vous nous emmerdez.
Tamponné, double tamponné, tamponné deux fois, retamponné, redouble tamponné, ras-le-bol, re-ras-le-bol, double re-ras-le-bol.
On vient donc d'entendre un extrait de la saison de service de la France,
totalement bizarre.
Exactement, où on peut entendre Marie-Julie Bopp, Hugo Becker, Karim Barras et Bruno Pavio. C'est pas dans le bon ordre, mais peu importe. Et ça, c'était la saison 1, mais en ce moment... est diffusée la saison 2 d'Au service de la France. Ça se passe en 1961, si je ne me trompe pas, soit un an après la première.
Et logique, c'est affreusement logique.
C'est
sauf qu'elle passe trois ans après. Mais
c'est presque chronologique.
C'est ça, bravo.
Tout à fait.
Et là, les agents seraient censés rire s'ils étaient là, malheureusement. Et j'ai eu l'impression, en regardant la saison 2, qu'il y avait des références à des événements historiques beaucoup plus présents que dans la saison 1. Alors, sans aller trop loin dans la saison pour ne pas divulgâcher, comme on dit, il y a des référendums du général de Gaulle, la création de l'OAS.
Vous n'avez pas dit le sachet-tu tout à l'heure?
C'est une expression maison que j'espère bien entériner dans la langue française.
Donc il y a des belles expressions aussi.
Il y en a des très belles. Donc les référendums du général de Gaulle, la création de l'OAS, c'était des événements qui étaient évidents pour vous de traiter en écrivant la saison 2
Oui, c'était évident. Puis ce sont des événements qui sont quand même vraiment pas gays. Et qui sont, l'OAS, c'est quand même vraiment pas gay. Le FLN, ça n'est pas gay. Même s'il y a un des deux combats qui est peut-être plus noble que l'autre. Et puis... tout ça n'est pas très gai, même le chemin des pays africains pour avoir leur indépendance, le putsch des généraux. Et c'est, nous, ça nous faisait marrer de traiter ça d'une manière comique, non pas les événements, mais soit leur source, pourquoi ils sont arrivés, d'imaginer que c'était nos trois héros, donc Callot qui est avec nous, Jacquard et Moulinier, qui par leur intérêt personnel, leur petite pingrerie, ou leur égoïsme provoquer des événements mondiaux.
C'est vrai que ce sont un peu des événements personnels qui finissent par bouleverser le dessin du monde. Qu'est-ce que vous en pensez?
La vie personnelle du service qui agit en fait sur le monde, quoi. Et en même temps, c'est un univers poreux entre les événements qui se passent à l'extérieur et ce qu'ils peuvent vivre dans leur vie intime. Donc voilà, ça joue vraiment sur les. Sur un comique qui peut être tout petit et un peu mesquin, enfin des vies mesquines un petit peu comme ça, et qui ont en fait des répercussions énormes sur l'histoire du pays.
Et dans la saison 1, on avait un fil rouge qui était assez sous-jacent, où c'était...
rouge transparent.
Il était...
comme couleur.
Il y avait une histoire par épisode pendant toute la saison 1, et puis un fil rouge qui s'est développé en fin de saison.
Ouais.
Et le fil rouge a pris beaucoup plus d'ampleur dans la saison 2, puisque le fil rouge est présent pendant la quasi-totalité des épisodes, si je ne me trompe pas.
Oui, c'est... Non, vous ne vous trompez pas. C'est parce que, tout simplement, on s'est rendu compte que dans la saison 1... peut-être qu'on avait plus une forme de sketch en installant un petit peu toutes les choses, et que finalement Si un sketch est drôle, bah vous continuez à rester, enfin vous restez. Si le sketch est moins drôle, celui d'après encore moins drôle.
C'était une matière pour dramatiser ensuite.
Voilà, et puis avoir, et puis c'est drôle aussi de jouer avec les, comment dire, avec les dogmes un peu des séries télé, c'est-à-dire les cliffhangers, les fils rouges, les intrigues secondaires, principales, tout ça, et d'avoir un fil rouge qui est finalement pas très intéressant, mais quand même avec des suspens. Donc on s'est amusé à faire des cliffhangers, à des énormes surprises, des énormes suspens à la fin de chaque épisode, enfin tous les trois épisodes. Ouais. Et on s'amuse, et puis à chaque fois on les détruit dans l'épisode d'après, mais en disant ben non, voilà.
Parce que vous suivez l'ordre, donc ce que vous dites, c'est que vous suivez l'ordre des cliffhangers par rapport à la diffusion de la série. C'est-à-dire
oui, oui.
Trois épisodes par semaine, voilà. Il y a un cliffhanger finalement, au troisième épisode.
Il y en a toujours un petit par épisode, mais vous avez lu Tintin, j'imagine. Tintin, au début, c'était publié par deux planches ou quatre planches. Et si vous regardez les anciens Tintins, vous verrez que toutes les deux pages, toutes les quatre pages, il y a un oh, mon Dieu, Milou, que se passe-t-il ? Voilà. Et donc, voilà.
C'est
parce qu'il fallait acheter.
Feuilletonnant,
voilà. Voilà. Donc, c'est un vieux principe, quoi, tout simplement, pour que les gens achètent le journal de Tintin la semaine d'après. Donc, nous, on fait pareil.
Et dans Au service de la France, ce n'est pas Milou, mais c'est un perroquet.
Oui.
Qui est présent dans la série, qui est très important d'ailleurs.
Inspiré de Tintin d'ailleurs, et du samouraï de Jean-Pierre Melville.
Vous êtes inspiré du samouraï de Jean-Pierre Melville.
Oui, il a un Bouvreuil dans le. Vous parlez après de films du patrimoine, voilà un très beau film. Et puisqu'il n'y a pas de plus grande solitude que celle du samouraï dans la jungle. Voilà, bon. Non, le tigre dans la jungle, bref. Et citation complètement inventée par Melville. Et dans le samouraï, c'est comme ça qu'Alain Delon se rend compte que quelqu'un a pénétré dans son appartement, parce que le Bouvreuil ne fait plus de bruit.
Et pour quel et de quel film vous êtes inspiré pour créer le personnage de Callot finalement? Est-ce que vous pouvez nous en parler?
Déjà dans ton jeu, toi, tu peux dire, Jean-Edouard.
Alors moi, j'avais ça peut-être étonné, mais
Je vais voir.
Parce que l'agent Callot, il s'occupe du bloc de l'Est.
Voilà, c'est ça. Agent de l'Est, un peu. C'est le plus étrange en fait des trois, je pense, hein, des trois agents, on va dire. Et non,
si
moi je pense à.
Si vous le dites.
Ah, mais je le dis. Non, mais en tout cas, je pense au film d'Aki Kaurismäki, Leningrad Cowboy. Enfin voilà, je ne sais pas si vous vous souvenez de ce film. Enfin voilà, on parle de film de patrimoine encore, mais en même temps, c'est une référence, mais il y a quelque chose là-dedans. En tout cas, dans cet univers étrange que peut avoir Callot. Et puis voilà, le samouraï aussi, on peut s'inspirer un peu parce que c'est un personnage assez
puis aussi quand même
mystérieux,
beaucoup de l'imagerie des pays de l'Est aussi.
Oui, bien sûr.
C'est-à-dire pas de l'imagerie que nous on pouvait en avoir tant qu'il y avait le mur de Berlin et le bloc de l'Est, mais des affiches aussi, des affiches de cinéma des pays de l'Est. Par exemple, c'est très très étonnant, dans les pays de l'Est, le cinéma américain était interdit, donc les comédies françaises avaient énormément de succès, donc Louis de Funès, les Charlots étaient des stars, et en République tchèque, on trouve encore, on a le droit de dire Tchéquie, je crois, depuis quelque temps.
Bah, c'est Tchéquie même.
Ouais, Tchéquie, ouais. Ouais. On trouve des affiches des Charlots, alors les fous du stade, des trucs comme ça, mais c'est pas du tout des affiches de comédie. C'est-à-dire que les gens utilisaient ces affiches-là pour passer des messages politiques et tout ça. Et donc, Callot est dans cet univers-là, un univers d'oppression, parano, de surveillance.
Parce
et puis donc
la parano, effectivement, dans son comportement, on vit un petit peu la dualité qu'il peut y avoir pendant la guerre froide, enfin la dualité idéologique, si ça se dit.
Alors je pense à un film aussi avec Montand où il avait décrit c'est le cercle
là, c'est Melville encore, le cercle rouge
ouais. Là où
il a des visions,
il a des choses comme ça, donc il y a cet univers de folie aussi chez lui,
ouais, avec des pets dans son placard.
Ouais, exactement.
Et et puis il y avait aussi, à un moment donné, il y avait une allusion aussi un petit peu à Kubrick et à Shining, mais qui s'est inspiré lui-même d'une photo d'Yann Arbus avec des jumelles qui étaient connues. Enfin, il y a beaucoup de trucs sur la jumélité, justement ce côté double chez Callot.
Il
y a beaucoup de choses. Je ne le dis pas dans la saison 2 pour ne pas. Comment vous avez dit tout à l'heure le terme ?
Divulgâcher.
Pour ne pas divulgâcher.
Divulgâcher. Divulguinchon.
Le sachez-tu, il ne faut pas divulgâcher.
Pas facile à conjuguer, cette
affaire. Non, pas évident.
C'est assez sérieux. Vous restez avec nous, Jean-François Alain et Jean-Edouard Bodziak.
Tout à fait.
On revient.
Fait une petite pause musicale.
Tout à fait.
Est-ce qu'il s'en sort ? Non ?
Vous en sortez, vous ?
Eh bien, on ne trouve pas les musiques décidément aujourd'hui. Je crois qu'on est maudits.
Est-ce qu'on peut la chanter finalement? Non, je ne sais pas.
Alors moi, je m'y tenterai pas, mais si tu veux, sinon.
C'était
quoi
le morceau?
Ah bah. Mais
une
version.
Je vais avoir du mal à le faire.
Ah voilà.
Thank you.
Et vous écoutiez le thème de Mission Impossible, composé par Lalo Schifrin en 1966. Vous êtes sur Radio Campus Paris, il est 19h18.
Garçon, deux bâtisses doublées, trois frites.
Pour un picon bière, c'est moitié-moitié.
L'apéro, jusqu'à 20h sur le 93.9.
Rafraîchissant.
Oui.
On est de retour dans l'apéro, toujours avec Jean-François Alain et Jean-Édouard Bodziak.
Et Jean-Charles pour...
Voilà. Tout à fait, et Charlotte qui n'est pas là. Nous parlons donc de la saison 2 d'Au service de la France.
Mais elle arrive,
qui est de retour sur Arte. La diffusion, je rappelle, a commencé la semaine dernière. Et c'est 3 épisodes par semaine, tous les jeudis, jusqu'au 26 juillet.
Voilà.
Est-ce que tout est bon?
Tout est
tout est...
Ouais,
tout est correct.
Est-ce qu'on le tamponne?
On le tamponne.
Tamponné, validé.
Alors, on vient d'entendre le thème de Mission Impossible. C'est la série emblématique d'espionnage des années 60.
Ouais.
Et c'est une musique qui a inspiré l'ambiance sonore d'Au service de la France.
Oui, bien sûr. D'ailleurs, c'est le moment de signaler que la musique est composée par
Nicolas Godin,
voilà, du groupe R. Et il s'est amusé justement à piocher un petit peu de l'inspiration dans... Déjà, il regardait ça à la télévision quand il était gamin, donc il m'a même raconté, je crois que je peux le dire, qu'il est passé des heures devant la télé à regarder des séries américaines.
Ça s'entend sur la
BO est absolument génial. Ouais. Là, il vient de sortir le vinyle où les morceaux sont plus longs, avec des cordes remasterisées par...
Un vinyle a été sorti de la bande originale.
Où c'est à tomber, vraiment, bon, là où Schifrin, mais aussi Mancini, tous ces grands compositeurs quand même. Et
Mission Impossible, c'était peut-être plus pour le générique d'Au service de la France.
Oui, mais nous, notre nouveau générique t'inspirait aussi de Manix, dont la musique est de Lalo Schifrin aussi,
je pense.
Oui, Lalo Schifrin aussi, le même. Et puis le générique de Manix. Alors Manix avait une particularité, c'est la première série au monde, en tout cas aux États-Unis, en tout cas sûr, dans laquelle l'héroïne est noire. Et elle s'appelle Peggy, donc toutes les Peggy qu'il y a eu après...
Elle date de quelles années à peu près?
68 par là.
68.
Voilà, et toutes les Peggy nées à cette époque-là, enfin, toutes les filles qui s'appellent Peggy, ça vient de là. Et puis le générique est en split screen. Voilà, donc nous on a fait un générique en split screen aussi, avec une musique qui est celle de la saison 1, mais un peu refaite. Voilà.
Le split screen, pour rappeler à l'auditeur en quoi ça consiste, c'est plusieurs images qui sont superposées sur le même écran à peu près.
Voilà, qui sont censées montrer l'action de différents points de vue.
Et donc oui, c'est composé d'images d'épisodes de la série, que ce
exactement,
soit de la
saison. Voilà, différentes ambiances comme ça qui apparaissent en même temps sur l'écran, comme si on regardait plusieurs écrans.
Le film le plus connu pour ça, c'est un film qui est avec Tony Curtis, qui s'appelle L'étrangleur de Boston. Alors où là, il y a plein de scènes justement au moment où l'étrangleur, qui est joué par Tony Curtis, rentre chez les dames et va les étrangler. Il y a l'intérieur de la pièce, il y a l'extérieur, tout ça. C'est le film le plus connu fait comme ça.
Vous avez l'air d'être très référencé cinématographiquement.
Oui, j'aime bien.
Ça vous influence aussi sur l'écriture de la série?
Ah oui, il y a plein de scènes qui sont inspirées. Il y a dans l'épisode, je ne sais plus lequel, peut-être le 3, il y a une scène qui est fortement inspirée de La mort aux trousses de Hitchcock. C'est la scène de la vente aux enchères, quand Cary Grant se met à faire des enchères débiles pour se faire évacuer et échapper au tueur. Là, on a fait la même chose, clairement. On a des scènes
dans l'épisode 3, effectivement.
Dans l'épisode 3, voilà. Tout l'épisode 12 que vous verrez peut-être à la fin, donc à toute fin. S'inspire évidemment des films d'Hitchcock, comme L'inconnu du Nord Express ou voilà, parce que
même de James Bond à peu près. J'ai un peu reconnu une influence de films pas d'usine, mais de films de divertissement, d'espionnage.
On est quand même des espions,
c'est vrai,
mais voilà, je le rappelle.
Donc il y a plein d'influences partout, dans tous les sens. Il y a même des petites répliques des toutes petites allusions à des films de Joël Seria, des choses comme ça, voilà.
Et on va parler de la mise en scène aussi un peu de la série. Le réalisateur de la saison 2 n'est pas celui de la saison 1. Sur la saison 1, c'était Alexandre Courtès.
Voilà.
Et sur la saison 2...
C'est Alexis.
Alexis Charrier.
Et la troisième, ce sera Alex, je ne sais pas, voilà, on ne sait pas encore.
Voilà, Alex quelque chose.
Alexandre III, peut-être.
Ou Alexandre Alamy, je ne sais pas. Voilà, on va voir.
Alexandre, on ne cherche encore.
Excellent. Comment ça s'est passé pour le changement de metteur en scène?
Super mal. Non, je
suis sûr.
Très, très mal. Non, tout simplement... Alors, Alexandre Courtès, c'est un nom qui ne dit pas forcément à tout le monde, qui ne sonne pas aux oreilles de tout le monde, mais c'est quelqu'un qui fait des clips, notamment beaucoup avec la French Touch. Mais,
réalisateur des Infidèles aussi.
Voilà.
Long métrage.
Mais il excelle plus dans. Il a un clip au MoMA, quand même, considéré comme une œuvre d'art. C'est le fameux clip des.
Des White Straps.
Des White Straps, voilà. Non.
Non, c'est pas celui des White Straps.
Si, c'est ça. Voilà. Qui est devenu un hymne de stade de football maintenant. Ouais. Voilà. Vous savez, l'espèce de travelling avant, là, à travers les triangles et tout ça. Et
alors, puis. Si quelqu'un peut dire le titre, ce serait bien.
Oui, c'est Seven Nation Army. Seven Nation Army, je crois. Et puis voilà, des clips pour Air, des clips pour Daft Punk. C'est lui qui a dessiné les casques de Daft Punk. Enfin bon, voilà. Et donc on était dans un formalisme, une virtuosité visuelle et une composition d'image vraiment magnifique. C'est assez rare, et en comédie c'est encore plus rare. Parce que beaucoup de gens pensent qu'une comédie c'est éclairé comme chez Darty, c'est-à-dire plein pot, et puis ce qui compte c'est le dialogue. Quoi.
Oui, il y a une réputation dans les films français, souvent dans les comédies françaises, de ne pas avoir un travail de la lumière, de l'image, tout ça.
Complètement. Là, en tout cas, la première saison, et même la deuxième aussi.
Ah, d'une beauté, ouais.
Voilà, la lumière est travaillée, la touche artistique.
De toute façon, sur la saison 2, il y a un héritage de la saison 1.
C'était le but. C'est-à-dire que nous, on voulait quitter un tout petit peu ce formalisme parce qu'on le trouvait par moments, on trouvait qu'il manquait un peu de rythme. Voilà, enfin, on trouvait, mais les gens ont trouvé qu'au début de la saison 1, ça manquait un peu de rythme. Et on voulait voir quelque chose d'un peu plus rythmé, plus dans l'action et plus près des comédiens. Voilà. Et en essayant de garder cet héritage vraiment très chouette d'Alexandre
Cortès. C'est comme ça que vous avez choisi Alexis Charrier pour la mise en scène ?
Oui, parce qu'il avait l'habitude, il travaille sur OCS, donc, qui est une chaîne qui fait beaucoup de séries vraiment bien et avec très très peu d'argent. Et c'est un peu, allez, vas-y, comme je te pousse, et débrouille-toi, mon gars. Voilà. Et à l'arrivée, il a fait des bonnes séries, il y a des très bonnes séries sur OCS.
Donc pour vous, il a apporté quelque chose de nouveau sur le rythme de la série ?
Ah, oui, vraiment. Oui, oui.
Même nous, et sur la direction d'acteur, effectivement, j'allais vous poser
aussi,
la question.
Oui, oui, oui. Et même si Alexandre nous parlait beaucoup pour la première saison, Alexis a en plus, nous a apporté en tout cas des éclairages, on va dire. Voilà, il avait des petites visions sur certaines scènes qui nous ont un petit peu aidé aussi nous à avancer. Mais bon, après il faut se dire aussi que la deuxième saison, en tout cas si je parle du jeu, parce que je parle de ce que je connais,
c'est confidentiel.
On se connaissait un peu plus aussi entre nous les acteurs, et ce qui nous a permis aussi de s'amuser encore plus, quoi, parce que
Le bagage de la saison 1 est toujours déterminant aussi pour la suite d'une série.
Une première couche qui est posée et qui sera...
un truc qui transparaît aussi forcément à l'écran pour les téléspectateurs, c'est qu'il y a une amitié qui est née vraiment entre les trois. Et puis,
on parle de l'agent
Calo, Moulinier, Jacquard,
qui est en charge de l'Afrique, qui est sur l'Algérie française à ce moment de la série.
Voilà.
Et toujours l'agent Calo.
Voilà,
et
c'est pays de l'Est. Et ce côté-là, ça ne s'improvise pas. Évidemment, il y a parfois des duos de cinéma qui sont faux, qui sont vrais qu'à l'image. Mais là, je trouve que ça transparaît. L'amitié qui est entre les trois.
On a pris un appartement ensemble. On a une colocation maintenant et on a décidé qu'on vivrait tout le temps ensemble.
Vous allez adopter bientôt, certainement ?
Ça, je ne sais pas. Ouais, voilà, peut-être,
tu sais, comme les Beatles dans ce film incroyable, là où ils habitent dans quatre maisons différentes. Mais une fois qu'on rentre dans les maisons, c'est la même maison à l'intérieur. C'est lequel ? Ça,
c'est très calotien.
Ouais, c'est très drôle, ça. Très
calotien, toujours un peu dispersé. Et pour revenir sur la réalisation d'Alexis Charrier, ça a changé quelque chose sur l'espace aussi, sur la gestion de l'espace à l'image ? Vous avez retours là-dessus ?
Si vous le dites, c'est que vous le sentez. Vous parlez de quoi ? Des intérieurs ou des extérieurs ?
Plutôt de l'intérieur, puisque après le décor a changé.
Le décor
aussi
a changé.
Pouviez peut-être décrire le décor de la saison 1, c'est une espèce d'open space.
Open space, voilà, c'est complètement. D'ailleurs, je vais arrêter avec les références du cinéma, mais il y avait déjà des open space à cette époque-là. Il y en a un dans Pas de printemps pour Marnie.
Mais tout à fait. Bon,
Alfred
Hitchcock. Voilà. Et j'étais surpris de voir qu'à cette époque-là, il y en avait. Donc il y avait un grand open space, et puis il y avait le planisphère au-dessus, qu'on a ressorti pour la saison 2 parce qu'on l'adore, et au-dessus il y avait la salle de réunion qui était une sorte d'aquarium, on appelait ça l'aquarium, on y accédait par des escaliers et c'était entièrement vitré.
C'était en hauteur.
Voilà. Ça, à l'image, c'était chouette, mais ça donnait un petit peu un côté un peu caisson, voilà, un peu enfoncé. Donc là on a tout refait, et il y avait un côté aussi, une volonté de modernité. 61, c'est un peu plus années 60 que 1960, et là je trouve qu'effectivement c'est très juste ce que vous dites, c'est que on se repère mieux dans les locaux, on comprend mieux où sont les bureaux, on comprend mieux les trajets, déjà parce qu'on a fait plus de dialogues en marchant, qui est un vieux truc de série américaine. C'est-à-dire que quand il n'y a pas d'action, on marche et on parle en marchant, voilà. Alors que nous, là, on ne marche pas, par exemple, mais voilà.
Bah, en tout cas, moi je ne marche pas là.
Et donc, on peut tout à fait mieux avoir la topographie des lieux. Et puis, c'est une saison dans laquelle il y a beaucoup plus d'extérieur.
Ouais, c'est surtout ça, on est vraiment beaucoup plus en.
Beaucoup plus dehors.
De mission, en fait. On est beaucoup plus en mission à l'extérieur.
C'est vrai que ça s'est libéré sur l'extérieur, vous êtes beaucoup plus.
Mais en même temps, je pense je m'avance peut-être un peu, mais.
Un peu.
Mais bon, comme on est en train de marcher, je me dis que voilà, ça va peut-être nous aider. Non, mais en tout cas, en première saison, il fallait aussi certainement beaucoup exposer un petit peu les bureaux, comment fonctionne cette administration-là, et que une fois qu'on a compris ça, on a envie de les voir un petit peu à l'extérieur. Donc voilà, c'est plutôt du voyage et de l'aventure.
Voilà.
Et ça change. Il y a une question de budget aussi. Vous avez peut-être eu plus de moyens pour.
Pas du tout.
Toujours.
Non, mais pas du tout.
Je voulais pas aborder les questions qui fâchent. Hein,
Mais moi, ça me fâche pas du tout, parce que on a ce qu'on appelle. Il y a un terme. Production value.
Voilà, on a une bonne production value. On a optimisé le truc.
Parce que vous avez tourné la première saison, c'est le même lieu de tournage que sur la première saison.
Non, c'est comme ça qu'on a fait des production value.
Parce que vous étiez dans une banque à Pantin, si je me trompe pas, pendant la première saison.
On a profité de l'optimisation fiscale d'un pays contre lequel on joue au football en ce moment. Voilà.
D'accord.
Voilà. Mais ça, c'est pas nous, c'est la production. Il y a des accords et ce qui permet avec un budget de faire plus de choses. Voilà, c'est un peu. C'est assez moche dans le fond, et pour le cinéma français et pour le cinéma belge, mais voilà.
Mais le match est à 20h, restons sur Radio Campus Paris. la diffusion de la saison 2 a commencé jeudi dernier,
oui.
Et parallèlement, elle est déjà sortie en DVD et sur les plateformes VOD d'Arte, si je ne me trompe pas.
Oui, elle est en antéplay, on appelle ça.
En antéplay.
Voilà.
Et pas en arteplay, ne pas confondre. Mmh. C'est systématique pour une série française
Jean Simon.
J'en sais rien.
Systématique
de sortir parallèlement à la diffusion à la télévision les DVD, la plateforme VOD.
C'est une vraie question.
Je pense que le monde de la télévision et de la diffusion et de la réception de télévision est tellement en train d'être bouleversé que tout le monde est un peu
par le numérique,
un peu perdu, je pense, et qu'on fait le plus possible. Donc, par exemple, le DVD, je me demande si la sortie du DVD quelque temps avant la diffusion, genre 2 semaines avant ou 1 semaine avant, ne sert pas aussi d'affiche publicitaire pour la sortie
pour la diffusion.
Et je me dis que la manière de consommer, en tout cas moi, comme je consomme la série, par exemple, je la
entre les différents.
Et puis on n'attend pas forcément la diffusion. Enfin, voilà, il y a différentes manières de consommer la série. Je pense qu'il y a des gens qui regardent tout en une fois parce qu'ils aiment ça, ils ont besoin de connaître. Ils se font une nuit entière.
Tu sais, quand un réalisateur ne sait pas comment filmer une scène, il se couvre, comme on dit, c'est-à-dire qu'il fait des plans dans tous les sens, puis il se dit, je verrai au montage. Là, j'ai l'impression qu'on est un peu perdu par la consommation de l'image, donc on se couvre dans tous les sens.
C'est peut-être ça, ouais.
Donc
ouais.
VOD, Anteplay, iTunes, je ne sais pas quoi, voilà. Donc il y a des tas de supports, et puis on va voir ce qui ressort tout ça, tout en sachant que la diffusion est toujours le principal moteur, mais... Vous savez qu'il y a des chaînes, aujourd'hui, où ce qu'on appelle le linéaire, c'est-à-dire regarder une émission en direct, ça n'est plus que 50% de l'audience, quand même. Sur Canal+, c'est le cas.
D'accord. J'apprends quelque chose. Merci beaucoup.
Je suis venu aussi pour ça.
Vous êtes venu pour nous informer sur le cinéma.
C'est une radio étudiante.
Effectivement, c'est une radio associative étudiante.
Tout le monde est là pour, un petit peu pour apprendre.
Exactement.
Voilà. Et j'ai appris ce joli mot tout à l'heure. Voilà, donc,
et j'aimerais apprendre une dernière chose, du coup, une dernière question. À quand la saison 3, tout simplement?
Je ne sais pas. Il faut justement qu'il y ait du monde qui la regarde.
C'est le moment de divulgâcher les projets d'Arte.
Divulgâcher. Non, mais il y a beaucoup de signes très positifs pour la série, notamment, je peux le dire, on est quand même un paquet à avoir travaillé sur cette série, donc ce n'est pas prétentieux. On a une très 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 bonne presse, quoi, vraiment une presse hallucinante, très bonne critique partout. Et puis,
je confirme.
Voilà, donc il faut qu'il y ait un peu de monde. Bon, je lui dis, il y a eu beaucoup de monde, l'audience était vraiment chouette, très très bien, donc voilà. Mais l'envie, par contre, ce qui est le plus important, c'est que l'envie de la faire,
c'est
vraiment là.
Ouais.
Ah ouais, vraiment, vraiment là, ouais.
Eh bien, merci beaucoup Jean-François Alain et Jean-Edouard Bodiac.
Mais merci.
La saison 2 est tamponnée sur Arte jusqu'au 26 juillet. Merci beaucoup d'avoir été avec nous pour Au service de la France. Une pause musicale.
Merci.
Il peut faire. quoi il veut faire un film avec une femme nue et des handicapés.
Bah oui, papa.
Pourquoi il ne sait pas? Est-ce qu'il vaut mieux le savoir ou pas? Le savoir ou pas?
Non, papa. Mais est-ce qu'il vaut mieux le faire ou pas?
Pour ceux qui n'écoutaient pas les paroles, c'était « Il veut faire un film » de Philippe Catherine. Bah oui, on voulait mettre des musiques en lien avec le thème de l'apéro, mais c'était pas que des bonnes idées.
Une autre bière.
L'apéro, c'est le rendez-vous estival de Radio Campus Paris.
Ok, à quelle heure?
À 19h.
Et ben c'est parti, l'apéro.
C'est maintenant.
Je vais m'apprendre, petite sœur.
Désolée Simon, je sais que t'aimes beaucoup cette chanson.
Bah oui, avant que se passe-t-il?
Bah voilà, j'avais besoin d'exprimer mon opinion.
Il y a un putsch culturel sur cette émission qui me gêne énormément.
Exactement.
Allez voir au service de la France.
Avant de passer à la seconde partie de cette émission, je crois qu'il est temps de rejoindre notre cher et tendre envoyé très spécial en direct live du Festival d'Avignon. Salut Philippine.
Salut, salut.
Alors Philippine, tu arpentes depuis quelques jours. Alors déjà, sache que... Les personnes
Alain, voilà, et Jean-Édouard Bodiac sont restés
sont encore avec nous
pour t'écouter.
Et t'avais peut-être
bonsoir, messieurs.
Je crois que tu avais un petit message d'amour à leur faire passer ou simplement
non,
un peu de fans.
Bonsoir, ça suffira.
Bon, très bien. Bon, moi je dirais
un bonsoir plein d'amour quand même.
Je dirais pour
plein
toi
plein
même...
d'amour et d'admiration.
Je dirais quand même pour toi que tu tweets depuis tout à l'heure hashtag au service de la France parce que tu adores cette série. Voilà. Donc Philippine, tu arpentes depuis quelques jours les salles de spectacle, les petites et les grandes. Dis-nous de quoi est faite ta petite sélection dont tu vas nous parler aujourd'hui.
Alors d'abord, comment ne pas vous parler du spectacle qui a fait l'ouverture du festival, le Tieste de Thomas Joly, qui a investi la cour d'honneur du Palais des Papes. Pour la petite histoire, c'était la première fois que se jouait cette tragédie romaine écrite par Sénèque, et ce depuis la création du Festival d'Avignon par Jean Villard en 1947. Thomas Joly est une star, incontestablement, mais cette dernière création nous a un peu déçus. Il y a tout pour que ça fonctionne, mais bon, la tradition du chœur est mise à jour par un slam sur de la mode texto, le décor est sublime, les costumes tout autant. Pourtant, le temps se fait long et il est difficile de ne pas regarder sa montre pendant ces 2h30, d'autant que l'histoire de Tieste est quelque peu amputée par la mise en avant bien trop appuyée du personnage d'Atrée, joué par Thomas Joly, et ça, c'est un peu dommage.
Effectivement, mais bon, le festival n'est pas encore fini, c'est jusqu'au 24 juillet. Est-ce que t'as déjà été bouleversé par un spectacle précis que t'aurais vu?
Oui, 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 tout à fait. Et ça date d'hier. C'est mon grand chamboulement, du moins pour l'instant. Il s'agit de Trans, de Didier Ruiz. En résumé, 7 transsexuels racontent assez frontalement leur changement de genre. Ce ne sont pas des acteurs, mais bien de vraies personnes qui, sur scène, portent le témoignage de leur parcours. D'ailleurs, Didier Ruiz, le metteur en scène, nous a glissé que ce travail a suscité vocation. Alors, on s'en réjouit car ils sont tous incroyables. On rit, mais surtout, on pleure. La musique est géniale. La scène est très adroite. C'est un spectacle qui tournera en France et notamment à Paris. Alors, rendez-vous sur le site de la Compagnie des Hommes pour retrouver les dates. Cette pièce est un appel à la liberté de corps et se passe de slogans ou de militantisme. Ça se déroule en douceur et dans une grande poésie, un régal de théâtre.
Bon, et du côté off, est-ce que tu as repéré des petites pépites?
Oui, pour l'instant, mon cœur bat pour la pièce Eda, monologue d'une femme amoureuse mais battue, portée par une comédienne du nom de Léna Pogam. Pour les festivaliers qui ne débrancheraient pas de la station parisienne de Radio Campus, ça se joue à la Manufacture jusqu'au 26 juillet, mais ça passera aussi en France, à Brest, Lamballe et Toulouse. Les dates sont indiquées sur le site de la Manufacture. Vous y découvrirez un texte magnifique dont l'écriture est une réussite, signé Sigrid Carré-Lecointre. L'auteur parvient à sublimer la zone grise de ce drame qu'est la violence conjugale, en particulier à l'issue d'une tirade finale qui prend aux tripes. C'est vraiment magnifique.
Merci Philippine. Bon bah si on était au Festival d'Avignon, on saurait exactement quoi aller voir. Il est temps de te laisser finir ton festival à toi. Qu'est-ce que tu vas voir ce soir?
Bon alors pour moi ce soir c'est relâche comme on dit. Hein. Mais bon, merci. Belle soirée à tout le monde.
Philippine, merci d'avoir été avec nous. Voilà, on est de retour en studio. Ça fait du bien d'aller un peu dans le sud quand même de temps en temps.
C'est vrai, c'est rafraîchissant. Hein.
Et on a changé d'invité. On est désormais avec Marc Moquin et Eugénie Philo. Bonjour.
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 Eugénie, vous êtes directrice de publication de Revue et Corrigée. Marc, vous en êtes le rédacteur en chef. Pour nos auditeurs, Revue et Corrigée, c'est donc une toute nouvelle revue trimestrielle. Le premier numéro est paru le 27 juin. 150 pages entièrement dédiées au cinéma de patrimoine. Là, je suis obligée de vous demander, pour vous, nos auditeurs comme pour moi, c'est quoi le cinéma de patrimoine ?
Le cinéma de patrimoine, c'est tous les films qui sortent ou ressortent en vidéo, au cinéma ou sur d'autres supports, des films qui ont plus de 10 ans et qui voilà, vont connaître une nouvelle jeunesse parce qu'ils ont été restaurés, parce qu'il y a des restaurations 2K, 4K, et c'est toute l'actualité que vous avez en salle ou ailleurs sur ces différents médias.
Apparemment, il y avait plusieurs définitions pour le cinéma de patrimoine. Vous, vous êtes fixé une limite avec la revue, c'est les films rentrent dans le patrimoine quand ils ont 10 ans, c'est ça ?
Exactement. Il y a deux réglementations un petit peu différentes. Le CNC nous dit que les films de patrimoine, ce sont les films dont le visa d'exploitation a été délivré avant le 31 décembre 1999. Donc, bon, pourquoi pas. Mais ailleurs, ou pour des statistiques, on parle souvent de films qui ont 10 ans. Et nous, on a choisi cette frontière qu'éventuellement on pourra transgresser, mais cette frontière pour dire que voilà, un film qui a 10 ans n'appartient plus exactement aux contemporains, à notre actualité, c'est pas forcément un très ancien film, mais il appartient à une sorte de patrimoine contemporain. On a 10 ans de recul sur ce film, on va le juger avec 10 ans d'histoire politique, culturelle, cinématographique, permettant de relire le film sous de nouveaux prismes. Et voilà, donc voilà pourquoi on a choisi ces 10 ans-là comme frontière, et ce qui nous permet aussi de parler de films un petit peu récents dans la revue et de les confronter à des films beaucoup plus anciens.
On va en reparler avec intérêt. Et comment vous êtes venu l'idée de ce projet, justement, de mettre en avant les films de patrimoine ?
En fait, le projet est né notamment à Cannes l'année dernière, en 2017, avec les autres journalistes cofondateurs de la revue, Alexis Yomet et Sylvain Lefort. On avait des discussions notamment au niveau du patrimoine, parce qu'on écrivait chacun pour des médias internet, où on s'était rendu compte que les articles sur les films anciens ou sur les rétrospectives, les anniversaires, marchaient peut-être mieux que l'actualité traditionnelle du cinéma.
L'actualité récente.
Voilà, les films frais, comme on dit. Et donc, suite à des conversations entre nous, on s'est dit « Ah, on écrirait bien sur le patrimoine ». On était à Cannes, au même moment, il y a la programmation Cannes Classics, donc qui est une sélection qui met en avant des films nouvellement restaurés en 2K ou en 4K au sein de la sélection du Festival de Cannes. On en a parlé à ce moment-là à son directeur qui s'appelle Gérald Duchossois. Et petit à petit, voilà, on s'est dit, on va faire un média. Alors, qu'est-ce que ça serait ? Est-ce que ce serait un podcast ? Est-ce que ça serait des vidéos ? Un site internet, peut-être ? On s'est finalement orienté vers le papier, mais avec l'idée d'être un peu cross-média, comme on dit, taper un petit peu sur différents médias. Là, on a un site internet, mais plus tard, on va évoluer, mais on en reparlera peut-être. Et donc, voilà.
Finalement, le papier, spécifiquement
Le papier, alors, notamment, il y avait l'idée de pouvoir parler de patrimoine et d'être pérenne dans le temps, c'est-à-dire de faire des articles qui n'ont pas l'éphémérité qu'à Internet. Je m'en suis rendu compte parfois en faisant des recherches, où je voulais retrouver telle interview d'une personne. En l'occurrence, c'était une interview de Jean-Max Cos, qui est le directeur de la Filmothèque du Quartier Latin. Il avait fait une interview pour un site qui a entre-temps disparu. Donc j'ai eu de la chance, j'ai trouvé une copie de l'interview, mais ça m'a fait rendre compte de la fébrilité d'Internet. En fait, un site disparaît, beaucoup de choses peuvent disparaître
finalement,
avec lui.
En termes d'archives, paradoxalement, on a l'impression qu'on peut tout archiver, et finalement, pas tant que ça.
Voilà, et d'ailleurs on en parle en fait dans la revue, l'archivage du numérique et des films en numérique, mais voilà, on voulait faire du papier pour pouvoir avoir un peu ce côté pérenne des articles, se dire voilà, on écrit sur du patrimoine, c'est peut-être un peu prétentieux de le dire, mais on aimerait que nos articles existent encore dans 5, 10, 15 ans, et que peut-être certains puissent être reconsultés avec du recul en fait, pour voir comment nous aujourd'hui en 2018 on considérait certains points de patrimoine et comment ultérieurement ils seraient considérés par d'autres.
Donc avec un support matériel. Donc, vous avez évoqué ce terme pendant votre réponse, et c'est le thème principal de ce numéro, qui est la restauration des films. C'est un sujet dont l'histoire est assez riche, puisque ça a commencé dans les années 20, si vous pouvez me confirmer, non ?
Non, en 1895.
La restauration,
l'histoire du cinéma. Excusez-moi,
1929.
Je n'écoute pas quand tu parles, Simon, je suis désolée.
Ouais, je sais, j'en souffre.
Poursuis.
Je pleure en silence. Donc, pardon.
Oui, on a fait un grand dossier donc, qui s'appelle « Revoir l'invisible », un grand dossier sur la restauration du film. « Revoir l'invisible » dans le sens, dans les différents sens du mot « revoir ». revoir un film dans le sens le restaurer, revoir, le revoir avec un nouveau regard aussi, et tout ça qui va créer un dossier sur les origines de la restauration du film, pourquoi on restaure le film. Explication simple, parce que le film est tourné sur pellicule, la pellicule s'abîme comme un tableau s'abîme, et donc il faut la restaurer avec différents procédés, autrefois photochimiques, aujourd'hui photochimiques et numériques, donc avec des logiciels, pour faire court. Et aussi parce que voilà, il faut transmettre ces films à des nouvelles générations, des films qui parfois ont été en très mauvais état, ou qui n'ont pas marché à leur sortie, ou qui n'ont pas été vus pour des raisons X ou Y, qui aujourd'hui vont être découverts justement parce qu'ils sont restaurés. Les premiers processus de restauration, c'est le début de la revue, justement, on dit que ça a commencé avec Georges Méliès. Alors, c'est peut-être pas la toute, toute première restauration, en tout cas, c'est la plus ancienne qu'on connaisse, nous.
En 1929.
Exactement, notamment pour un ensemble de ses films, dont Le Voyage dans la Lune, qui est son film le plus connu, avec cette image de la Lune qui a une fusée plantée dans l'œil. Vous l'avez certainement vu, peut-être, dans Hugo Cabret de Martin Scorsese. Et voilà, on avait commencé à restaurer l'œuvre de Méliès, qui avait été à l'époque gravement en danger. Et puis depuis, on restaure petit à petit. On a mis du temps à se rendre compte que tout ce patrimoine était fragile. Mais depuis, voilà, au moins depuis les années 80-90, on est rentré dans des processus de restauration vraiment très institutionnalisés et à grande échelle. Et encore plus, ces 10-15 dernières années, depuis qu'on fait des restaurations numériques 2K, 4K, en vue de sortie en salle, en Blu-ray, etc., ou pour l'archivage.
La fille tient sa beauté d'une Greta Garbo, le garçon est l'enfant d'un Robert De Niro. Tous les matins du monde, sous un drap miroitant, ils s'aiment comme autant en emporte le vent. Leurs soupirs font pâlir les lumières de la ville, en cadence au tempo langoureux d'un Brésil. Leurs jeux interdits brûlent sous la guerre des étoiles, avant qu'à bout de souffle ils dégonflent leur voile. J'habite, fenêtre sur cour, une chambre avec vue sur l'amour. J'habite, fenêtre sur cour, une chambre avec vue sur l'amour. Dans leur déshabillé, ils se font festin nu, grande bouffe au café, ils avalent des jus. Par-delà les nuages, par le lune de miel, pour un couple parfait, Dieu que la vie est belle. Dans le temps des amants coulent des jours de fête, entre le diable au corps et les doigts dans la tête. Ils passent leur romance à composer le bal, mélodie du bonheur pour symphonie nuptiale. J'habite, fenêtre sur cour, une chambre avec vue sur l'amour. J'habite, fenêtre sur cour, une chambre avec vue sur l'amour. Ils sont parfois contraints par le jour le plus long d'aller si loin, si proche, tous les deux au charbon.
Mais le mur invisible fait de beaux lendemains, quand le temps retrouvé devient histoire sans fin.
Ils sont de nouveau rois de leur empire d'essence, un homme pressé par une femme sous influence.
Les plaisirs
de la chair font au cœur
de la nuit
le septième ciel pour les enfants du paradis.
J'habite, fenêtre sur cour, une chambre avec vue sur l'amour. J'habite, fenêtre sur cour, une chambre avec vue sur l'amour.
Perdu dans les ténèbres et si seul contre tous, les samedis soirs de fièvre quand j'ai la mort aux trousses, je me zappe entre sexe, mensonge et vidéo, entre nuit et brouillard, je m'en mêle au mélo, des dédales de dead zone où je m'attends, je suis libre. Mes blessures assassinent et ma fureur de vivre, puis des larmes fatales bercent mon cœur en hiver. Le songe d'une nuit d'été m'invente un soleil vert. J'habite, fenêtre sur cour, une chambre avec vue sur l'amour.
On écoutait à l'instant Fenêtre sur cœur des Vriegels ou Wargirls, on ne saura jamais vraiment. Si vous n'avez pas saisi toutes les références dans les paroles, c'est qu'il va falloir plonger le nez dans une certaine revue trimestrielle.
Tu prendrais pas une bière ?
On vient de passer un mois à picoler, on a fait que ça.
Et on va continuer.
Et on va continuer.
L'apéro jusqu'à 20h sur le 93.9.
Et on est toujours en studio avec Eugénie Philot et Marc Moquin de la revue Revue et Corrigée. Simon, j'avais très envie de continuer à parler de numérique.
Ben oui, parce que c'est un pan quand même assez important de la restauration des films, donc qui est arrivé pendant les années 90, c'est ce que vous disiez Marc. Qu'est-ce que ça a changé aussi sur le rapport à la cinéphilie? Est-ce que vous en parlez dans Revue et Corrigée?
Oui, on a tout un article justement qui parle de la cinéphilie à l'ère d'Internet et du numérique, notamment parce qu'il y a un truc qui est assez fou qu'on connaît actuellement, que notre génération connaît actuellement, c'est que les films n'ont jamais été autant disponibles qu'ils le sont aujourd'hui. Il y a des exceptions, il y a des films qui ont disparu évidemment, mais globalement, vous avez des films qui sont disponibles en DVD, en Blu-ray, en VOD, SVOD, dans les salles, même de manière illégale, parce que ça contribue quand même à une diffusion de la cinéphilie. Et vous avez voilà, une nouvelle approche de la cinéphilie, transversale à travers les genres, les époques, etc., qui change vraiment la conception des choses par rapport à autrefois, où la cinéphilie était peut-être plus conditionnée par les programmations des cinémathèques ou éventuellement les programmations des programmes télé, des programmes cinéphiles.
Donc il y a eu un gain de curiosité sur les films un peu anciens.
Exactement, il y a certains films par exemple qui connaissent de nouveaux publics, notamment au travers de leur restauration, des films un peu de niche, on va dire les films de série B italiens, les Gialli ou d'autres films d'horreur. Qu'il y a un éditeur par exemple qui s'appelle Le Chat qui fume, qui est spécialisé dans les restaurations de ces films de niche italien, des films de zombies, il fait un peu tout, mais qui dans l'absolu ne devrait toucher qu'un petit public, mais en fait il communique essentiellement sur internet, qui est un public de cinéphiles qui a connu ces films via internet, et petit à petit en fait il prend une sacrée importance cet éditeur, et c'est quelque chose qui est vraiment possible grâce à la diffusion des films et via des supports, la communication via des supports internet, numériques, on va dire, et puis la restauration des films en eux-mêmes sur support numérique, pour qu'il y ait des films tournés en 35 mm il y a 40 ans, conservés de manière désastreuse, qui aujourd'hui ont des restaurations 2K, 4K, sont disponibles en Blu-ray, et connaissent voilà, une nouvelle jeunesse, de nouveaux regards, un nouvel Éden sur ces supports-là.
Et on voulait revenir aussi sur la composition des... Il y a une vingtaine de critiques et analyses de films de patrimoine dans Revue et Corrigée. Comment vous les avez choisis? Est-ce que c'est par résonance avec l'actualité ou juste par une envie cinéphile d'en parler? Peut-être Eugénie, vous pouvez répondre.
Bien sûr. Parce que du coup, comme on parle on parle pas de films d'actualité, mais on parle de films qui ont une actualité, parce que comme Marc l'a dit, ils sont restaurés, ils ressortent sur plusieurs supports. On parlait tout à l'heure avec... le scénariste et l'acteur de la série
de la
Au service de la France, il y a plein de supports pour la série et pour le cinéma. Ben, pour le cinéma de patrimoine, c'est pareil, il y a le cinéma, la télé, les plateformes VOD, effectivement aussi le téléchargement, bon, ça c'est pas de l'actualité, les éditions physiques. Et du coup, c'est ressorti tous les mois, toutes les semaines, il y en a plusieurs. Et du coup, nous, comme on est un trimestriel, on fait en fonction des actualités de ces trois mois qu'on traite. Ce qui fait que c'est comme ça qu'on peut choisir certains films et pas d'autres. Et ce qui nous permet ensuite de mener tout un fil de réflexion et emmener les gens, les lecteurs, vers d'autres films.
Il y a aussi des thématiques que vous abordez parce qu'elles ont une actualité qui n'est pas forcément liée au cinéma, mais à notre actualité à nous, du monde réel. Dans le premier numéro, il y a plusieurs articles, plusieurs critiques, par exemple, sur la Corée.
Tout à fait.
Donc ça suit une actualité
tout
contemporaine.
Tout à fait. Et ils suivent. Bon, ce qui est génial, c'est que c'est une actualité de ressortie. Et en plus, c'est formidable parce qu'on a vu il y a quelques mois les deux Corées se réunir sur justement cette Joint Security Area qui est cette frontière entre la Corée du Nord et la Corée du Sud, qui est le lieu en fait où se passe le film Joint Security Area qui ressort, dont on parle, et le lieu où les deux dirigeants de ces deux pays se sont serrés la main il y a quelques mois. Donc ça, c'était incroyable. Quand on a vu ça, on s'est dit waouh, c'est en ça que c'est génial de parler. C'est en ça que l'histoire est géniale, en ça que étudier le patrimoine et parler du patrimoine est génial, c'est qu'on retrouve toujours une résonance dans notre actualité et puis aussi dans la manière dont on peut voir, dont on parle de nos jours, c'est-à-dire qu'on a aussi On a aussi tout un coffret sur les femmes réalisatrices, les pionnières du cinéma, donc les femmes réalisatrices au début du cinéma, dans les années 10-20. Et c'est génial d'étudier à nouveau ce qu'elles ont pu faire au regard de toutes nos inquiétudes et de toutes nos réflexions sur les femmes dans le cinéma aujourd'hui.
Il y a une autre des problématiques un peu intemporelles, enfin sur le féminisme.
Ouais, tout à fait. Mais c'est aussi le fait de pouvoir drainer en fait toutes les personnes qui se posent des questions sur la question la place des femmes, sur leur pouvoir.
Et
drainer toutes ces personnes-là qui s'intéressent à ce sujet féministe vers en fait des films muets d'il y a un siècle. C'est trop bien.
C'est assez étonnant. Et il n'y a pas que les films qui datent d'il y a un siècle, il y a aussi les films qui datent d'il y a 10 ans. On en parlait, donc les films de patrimoine pour Revue et Corriger, ce sont les films qui datent d'il y a au moins 10 ans. Les nouveaux vieux films. Et c'est un vieux film depuis maintenant 10 ans. Il s'appelle The Dark Knight. Et l'America Great Again, c'est un papier que vous avez écrit dans la revue, Marc Moquin. Vous pouvez nous en parler brièvement, pas forcément, parce que c'est un article de 6 pages, donc c'est assez riche. Mais
tout à fait, on a une rubrique dans la revue qui s'appelle Une décennie sous influence, où le but c'est de dire, voilà, on va prendre un film qui fête ses 10 ans, qui rentre dans une sorte de patrimoine contemporain. En l'occurrence, pour The Dark Knight, il était sorti à l'été 2008.
Désolé.
Et l'idée, c'est de dire comment The Dark Knight a vieilli l'espace de ces 10 dernières années. C'est-à-dire qu'il y a il y a deux Amériques qui se sont passées entre-temps. The Dark Knight est sorti en 2008, où on rentrait dans l'Amérique Barack Obama. Aujourd'hui, 10 ans après, on est dans l'Amérique Donald Trump. Et c'est intéressant de le relire à l'aune de ses regards nouveaux, en fait, de voir certaines répliques qui sont amusantes à se répéter dans l'ère de l'Amérique Donald Trump, qui peuvent éventuellement avoir un écho inconscient, hein, peut-être de la part de Christopher Nolan, ou prophétique, c'est selon, sur l'Amérique de Donald Trump, et faisant que le film est peut-être plus riche aujourd'hui en 2018, 10 ans après sa sortie, qu'à l'époque en 2008, parce qu'on a 10 ans de recul sur le film, parce que ça permet de voir en l'espace de cette décennie quels sont les... qu'est-ce qui est la véritable richesse du film. Il y a 10 ans, on était peut-être impressionné par des choses qui sont aujourd'hui moins intéressantes. Moi, personnellement, par exemple, je trouve le début du film, le braquage de banque, que j'avais adoré à l'époque quand je l'avais vu. Je trouve que c'est aujourd'hui la partie la moins intéressante du film, l'introduction qui fait référence à Hit, alors que le film a des...
Qui faisait référence au 11 septembre, finalement, le début, quand il y a la fenêtre qui se casse. Enfin, c'est un peu le côté de Tour, non je sais pas. C'est de l'analyse à chaud.
Ça pourrait être aussi ça. Mais voilà, l'idée, c'est de dire, voilà, The Dark Knight a 10 ans, c'est un film que vous avez vu en salle il y a 10 ans. Vous qui n'êtes pas forcément à fond sur le cinéma de patrimoine, The Dark Knight, en fait, c'est devenu du cinéma de patrimoine. Il y a des films comme ça qui continuent à sortir. L'année prochaine, Avatar, si on veut, qui était sorti en 2009. Avatar, ça sera du cinéma de patrimoine et on pourra revoir Avatar avec 10 ans de recul et voir peut-être dans quelle mesure Avatar a apporté des choses au cinéma.
Bienvenue chez Esti aussi, c'est sorti en 2008. Pourquoi vous n'en parlez pas dans la revue ?
Parce que qu'est-ce que ça raconte aujourd'hui de la France ?
Bienvenue chez Esti, surtout que 10 ans après, maintenant on a la suite. Mais on s'était arrêté à un moment sur une liste de plusieurs films pour traiter. Il y avait eu The Dark Knight qui était sorti en 2008, mais ça aurait aussi pu être Valse avec Bachir d'Harry Folman qui était sorti en 2008. Ou Wall-E d'Andrew Stanton, qui était aussi sorti en 2008. Et Wall-E, pareil, c'est un film qui est certainement enrichi à regarder 10 ans après, de dire, voilà, on faisait ce constat de cette planète poubelle en 2008. En 2018, où est-ce qu'on en est ?
Eh bien, on approche terriblement de la fin de cette émission. Je crois que c'est l'heure d'accueillir Maxime avec un nouvel épisode de notre fiction estivale Wonderful Pacific Blue Exquisite Queen, si j'arrive à le dire.
Oui, bonsoir.
Bonsoir, Maxime.
Aujourd'hui, tu joueras Mademoiselle Nevers.
D'accord, ouais. Alors on fait carrément le casting en studio. Quoi.
Simon, c'est tu joueras le commandant.
On est au Théâtre du Soleil, totalement.
Très bien.
Est-ce que tout le monde est prêt ?
Tout le monde est prêt.
Parfait. Précédemment, dans Wonderful Pacific Blue Exquisite Queen, les pirates ont tenté d'aborder le bateau, mais sans succès. Retrouvons le commandant Swanson et l'équipage.
Inspecteur Tate.
J'ai dit que tu faisais elle.
Ah,
le commandant, c'est ça.
On reprend.
Mais laissez-moi, inspecteur Tate. Cet abordage de pirates m'inquiète fortement.
Ah oui ? Et pourquoi donc, commandant Swanson ?
Je fais des croisières depuis de nombreuses années, et c'est la première fois que je me fais aborder par des pirates.
Et alors ?
Alors, c'est également la première fois que deux policiers incognito embarquent à bord d'une de mes croisières. Coïncidence ? Je ne crois pas.
En tant que responsable de la sécurité, je partage cet avis.
Mademoiselle Nevers, qu'est-ce que vous voulez ?
Je suis mentaliste et j'ai ressenti que vous aviez besoin de moi.
Non, pas du tout.
Je le savais. Inspecteur Tate, en tant que mentaliste, je vous observe depuis le début de cette croisière et j'ai pu remarquer quelque chose qui vous inculpe totalement dans cette attaque de pirates.
Ah oui, et laquelle, s'il vous plaît ?
Je pense que vous ne nous dites pas tout.
C'est tout ?
Pas exactement. Vous vous appelez Inspecteur Tate, ou Tate s'écrit avec un A, un T et un E. Et si vous changez la première lettre de votre nom par P-I-R, vous obtenez pirate. Mmh. Étrange coïncidence, n'est-ce pas, Inspecteur Tate ?
C'est ridicule, vous n'êtes pas sérieux, j'espère.
Oh si, très sérieuse. Ne sous-estimez pas mes talents de mentaliste, Jason.
Pourquoi m'appelez-vous Jason ?
J'ai deviné que c'était votre deuxième prénom.
Je n'ai pas de deuxième prénom.
Je le savais.
Oh bon, ça suffit. Inspecteur, j'ai besoin de savoir s'il existe un lien entre votre présence ici et l'attaque des pirates.
Non, aucun rapport.
Je le savais.
Et pourquoi vous êtes là ?
Je vous l'ai déjà dit, nous soupçonnons la présence d'un homme dangereux à bord.
Qui ? Je le savais.
Qui ? Je ne peux rien vous dire.
Je le savais.
Mais pourquoi est-il dangereux ?
Je le savais.
J'ai rien affirmé, j'ai posé une question, merci.
Oui, mais je savais que vous alliez poser une question.
Bon, inspecteur, j'ai le droit de savoir.
Très bien, nous pensons qu'un tueur en série a embarqué à bord du bateau.
Oh, un tueur en série.
Nous enquêtons depuis plusieurs mois autour d'un homme dont le facteur, le boulanger, le charcutier, la femme de ménage, le coiffeur, trois collègues, cinq voisins et huit passants ont mystérieusement disparu.
Il s'agit sans doute d'une coïncidence.
C'est ce que nous avons pensé au début, puis nous avons retrouvé toutes ces personnes dans le jardin de cet homme.
Peut-être faisait-il une fête dans ce jardin.
On les a retrouvés enterrés.
C'est peut-être un suicide collectif.
On les a tous retrouvés découpés en deux.
Un suicide élaboré sans doute.
Nous penchons plus vers un tueur en série.
Et qu'attendez-vous pour l'arrêter ?
Comme je vous l'ai dit, l'individu a une personnalité complexe et nous n'avons pas encore déterminé son identité.
Vous êtes pourtant aller dans son jardin.
Oui, mais nous n'avons pas déterminé l'identité du jardin. Le tueur en série est-il sur le bateau ? L'inspecteur va-t-il le retrouver ? Vous le saurez dans le prochain épisode de Wonderful Pacific Blue Exquisite Queen.
Merci Maxime. Et voilà, Sniff Sniff, c'est la fin de l'apéro. Merci à Jean-François Alain et Jean-Édouard Bodziak de la série Au service de la France d'avoir été avec nous ce soir. On rappelle que la saison est diffusée.
On a 5 secondes.
On a 5 secondes, merci, au revoir, à demain.
Ciao.